Les cours du Collège de France, Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e-16e siècle. Patrick Boucheron.
Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne parlerai pas de l'amour de Dieu. C'est sur cette bonne résolution que commençait l'article fameux de Georges Duby, « Que sait-on de l'amour en France au XIIe siècle ?» Mais le mois de janvier s'achève et on sait bien ce qu'il advient généralement des bonnes résolutions. Je ne parlerai pas de l'amour de Dieu. Et pourtant, comment ne pas en parler ? Ah, ça n'a pas tenu longtemps cette affaire. Dès la deuxième phrase, il se renie. Puis vient la troisième. Je ne parlerai pas de l'amour de Dieu. Et pourtant, comment ne pas en parler ? Des raisons impérieuses devraient contraindre de commencer par là. Et suit une page sur la place centrale de la caritas dans la pensée de l'Église impérieuse, en effet. Et vient ensuite un nouveau revirement, mais je ne parlerai pas de l'amour de Dieu, et pour un sérieux motif, parce que je ne suis pas historien de la théologie ni de la morale. Vous voyez comment ces sujets continue d'une certaine manière à produire leur effet d'intimidation. Je suis historien de la société féodale, je cherche à comprendre comment cette société fonctionnait. Alors évidemment, c'est intéressant cette justification. Ça nous permet de suivre la tectonique des intérêts de Georges Duby, qui l'ont mené de l'histoire de l'agriculture à l'histoire des généalogies nobles, puis politique et pratique matrimoniale jusqu'à celle de la vie privée et comment cette pente l'a mené à l'histoire des femmes confluant vers les trois volumes paraissant la dernière année de sa vie sous le titre Dame du XIIe siècle. Mais comment tout cela ne l'a jamais en somme diverti de ce qui fut sans doute la plus constante et pour le coup la plus impérieuse de ces questions d'historien des sociétés médiévales, comment tient la société féodale, où sont les assises de sa puissance. Sauf que Duby était attentif à ce qu'il a appelé dans sa leçon inaugurale les désajustements entre les structures matérielles et les structures idéales. Ce qui fait que, d'une certaine manière, il n'a jamais voulu être au centre du métier. Il voulait travailler sur la diversité des allures d'un temps social dont il aimait dire la consistance comme un enchevêtrement d'articulation et de résonance. D'autres, aujourd'hui, à cette question « mais comment tient la société féodale ?» amènent une réponse plus massive, plus compacte. Ce qui fait tenir cette société, c'est l'ecclésia, c'est-à-dire précisément ce que Georges Duby a toujours soigneusement évité, lui reproche-t-on aujourd'hui, soigneusement évité d'aborder de front. Lorsqu'il lisait par exemple le cartulaire de l'abbaye de Cluny, c'était pour y traquer la société laïque. Et c'est à critiquer la compacité de cette architecture de l'ecclésia qu'on oppose aujourd'hui à Duby, qu'était consacrée la séance de la semaine dernière, partant de l'impossibilité symétrique de n'y parler que de l'amour de Dieu. Mais de voir, effectivement, comment la notion même de caritas trouvait à se troubler dès lors qu'on analysait un peu soigneusement les noms qu'il a disait. Mais le questionnaire d'un historien ne répond pas seulement aux injonctions de l'historiographie. La demande sociale y a sa part. Et sans doute aussi des interrogations plus intimes. Lorsqu'il se demande en 1983 « Que sait-on de l'amour en France au XIIe siècle ?», Georges Duby est inquiet. Peut-être se sent-il même menacé dans son rôle d'homme public et, allez savoir, d'homme tout court, comme on dit. Menacé par le succès de certains ouvrages à grande diffusion qui présentaient le Moyen-Âge comme l'âge d'or de l'épanouissement du féminin. C'était le cas du livre de Régine Pernoud, paru en 1980 sous le titre « La femme au temps des cathédrales ». Alors, on ne doit pas s'exagérer l'importance scientifique de cet ouvrage, mais on ne doit pas non plus en sous-estimer la portée idéologique. Hein, comme souvent en histoire intellectuelle, ce sont des livres qui ne sont pas irréprochables sur le plan de la méthode, qui produisent le plus grand effet, et d'une certaine manière, comme La sorcière de Mona Chollet, L'aristocrate de Régine Pernoud a créé une mythologie contemporaine, celle d'une puissance invaincue des femmes, toujours réprimée mais toujours susceptible d'être relevée, le passé agissant là moins comme, disons, ressource d'intelligibilité que comme ressource d'encouragement politique. Et étrangement, ça l'avait énervé, Georges Duby, de même qu'il avait pris ombrage du succès d'un roman très populaire de Jeanne Bourin, La Chambre des Dames, publié en 1979, vendu à 1,5 million d'exemplaires, adapté pour la télévision. Comment était-il possible, s'énervait-il, que le public préfère ces fades idylles dont nous entretient aujourd'hui en France le roman historique dans son impétueuse et inquiétante floraison, lit-on dans l'article dont je parle? Comment peut-on préférer ça, ces fades idylles, aux recherches savantes sur le mâle Moyen-Âge? L'amour courtois? Mais ce n'est pour lui qu'une fiction littéraire où des simulacres de désir se déploient autour de l'épouse du seigneur. La femme n'est qu'un leurre dans cette parade du pouvoir qui divertit les jeunes chevaliers soumis aux rigueurs de l'ordre lignager, de même qu'elle n'est, dans le discours des clercs, jamais qu'un reflet d'une image de Dieu. Et peut-être a-t-il un peu forcé analyse, on le verra ensemble, justement pour répondre, puisqu'il croyait devoir y répondre, à cette mythologie contemporaine. Un reflet, on le sait bien, n'agit pas de lui-même. L'homme seul est en position d'agir. Ce en quoi, évidemment, pour le coup, l'histoire des femmes aujourd'hui, dont Duby a été un allié, dont il a réussi d'une certaine manière à promouvoir la légitimité, mais qui l'a très largement dépassé, ce à quoi donc cette nouvelle historiographie oppose évidemment la puissance d'agir des femmes, et lui dit qu'il a sans doute exagéré, pour des raisons héroïques, cet effacement qui lui permettait d'avoir le beau rôle de celui qui dévoile. Et c'est sur ce constat faussement désenchanté qu'il prend congé de ces dames du XIIe siècle. Je n'ai entrevu que des ombres flottantes, insaisissable, aucune de leurs paroles ne m'est directement parvenue. Mais revenons à cet article de 1983. À le relire aujourd'hui, on comprend que son objet est beaucoup plus réduit qu'on le croit. Il traite, et il ne traite que de l'amour dans le mariage. Comme souvent chez Duby, et notamment dans ce genre de texte qui n'est nullement une étude savante, mais un essai très libre d'allure, sans notes, issu d'une conférence. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une érudition derrière. Elle y est, mais les étais ont été enlevés. Les références ne sont guère explicitées. Il est une page extraordinaire, où Duby évoque, mais d'assez loin, une lettre édifiante que l'abbé Adam de Persaigne adresse dans la dernière décennie du XIIe siècle à la comtesse du Perche pour lui enseigner l'usage des plaisirs qu'il convient d'accorder à l'affection de son époux, à l'affectus conjugal. Qu'elle n'oublie pas, dit l'abbé, qu'en tant que femme mariée, elle est partagée, corps et âme. Dieu ne permet pas que l'âme passe en possession d'un autre, lui écrit-il. Il s'en réserve donc l'usage exclusif. Ce qu'il a concédé à l'époux, par la loi du mariage qu'il a lui-même instituée, c'est uniquement le droit sur le corps de la femme. Et on retrouve effectivement cette opposition stricte entre le spirituel et le charnel. Et donc, ce droit qu'il lui a concédé sur le corps de la femme, eh bien, Duby dit, au fond, à la manière paysanne. C'est-à-dire que le mari en est le tenancier. Il s'en sert, il l'exploite, il lui fait porter fruit. Mais il n'en a justement que l'usufruit, et non le pouvoir éminent. Et si la comtesse de Perche s'interroge sur son debitum, sur ce qu'elle doit ce qu'elle doit à son mari, qu'elle ne s'avise pas de lui donner autre chose que son corps. Et, je cite Adam de Persaigne, « Quand l'époux de chair s'unit à toi, mets-toi ta joie à demeurer fixée spirituellement à ton époux céleste. » Et cette image d'une femme clivée de marbre, levant littéralement les yeux au ciel sans aucun frémissement de l'âme, écrit Georges Duby, le terrorisait. Car enfin, la fine amour, c'est une école de la jeunesse. Mais pour les hommes faits, pour les seigneuresses, disons les quinquagénaires, il n'y aurait que ça à espérer, cette femme bûche qui donne sa joie à Dieu. Et quel échappatoire alors, sinon l'adultère, parce que eux, les quinquagénaires, les hommes faits, et c'est la dernière phrase du texte, ils brûlaient encore. Quant à nous, retirons-nous discrètement sur la pointe des pieds, en cet endroit du texte qui sans doute frôle la confidence, et consolons-nous dans les joies simples de l'érudition. Sans doute cette image, effectivement, doit-elle être davantage contextualisée. D'abord parce que la lettre est aisément identifiable, c'est la 15e des 64 missives d'Adam de Persaigne, éditées par Jean Bouvet en 1960, et si elle émane bien, comme le dit justement Georges Duby, d'un de ces monastères cisterciens où l'on travaillait alors aux ajustements d'une morale à l'usage des laïcs, son auteur est aujourd'hui mieux identifié, non pas comme le pensait Duby du côté de la Champagne et de la cour de Marie de Champagne, mais du côté plutôt de l'espace plantagenais. Adam de Persaigne est un directeur spirituel, un habile prêcheur. Il participa à la quatrième croisade, donc c'est quand même quelqu'un de... un homme, disons, qui a une fonction politique, il a su même plusieurs missions diplomatiques, il a été probablement le confesseur de Richard Cœur de Lion, et on verra ensemble qu'il y avait du travail quand même, en particulier du point de vue moral, et la comtesse de Perche auquel il adresse cette missive, en forme de petit traité sur la sanctification dans le mariage, est la nièce de Richard Cœur de Lion. Mathilde, qui épouse en 1189 Geoffroy II, comte de Perche, qui est le fils de Mao de Champagne. Donc, comme l'a montré une étude récente d'Aurélie Reinbold, l'amicitia circule dans cette correspondance pour dessiner les cercles d'une amitié qui est à la fois spirituelle et sociopolitique, et c'est aussi comme ça que doit se comprendre cette lettre. Mais évidemment, ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'elle exprime bon, quelque chose de l'anthropologie ordinaire du corps, qui, chez Adam de Persaigne, n'est assurément guère valorisé, sinon pour nous enseigner l'humilité. Il y a peu, tu n'étais rien. Tu n'as été pour commencer qu'une vile semence. Tu n'es en la présente vie qu'un misérable sac d'ordures. Dans peu de temps, tu seras la pâture des vers. Bon, bonjour, ça va ? Bon, ça, c'est évidemment tout à fait classique, mais encore une fois, on peut pas s'arrêter là, et c'est ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui. Il y a quelque chose dans l'anthropologie chrétienne du corps qui ne s'arrête pas là, justement, et ce, à partir du XIIe siècle. Donc, par conséquent, la part qui est cédée à l'époux n'est, c'est vrai, guère valoriser votre mari selon la chair est l'époux de votre chair, votre Dieu est l'époux de votre âme. Pourtant, aucune jalousie n'agite ni l'un ni l'autre, pourvu qu'à l'égard de l'un et de l'autre, vous demeuriez fidèles et chastes. Ainsi donc, ma chère Mathilde, l'époux céleste n'exigera rien d'autre que la pureté de ton âme. Mais est-ce si certain ? N'a-t-il pas lu Jean-Luc Marion ? Cet Adam de Persaigne, Jean-Luc Marion qui affirme dans le phénomène érotique que Dieu nous surpasse comme amant, que faisait-il la semaine dernière Adam de Persaigne lorsqu'on éprouvait ici même le trouble de la charité ? La semaine dernière, je promettais de développer un peu l'analyse d'un autre texte, celui de Richard de Saint-Victor. Je le fais maintenant. Comme l'ont montré Damien Bocquet et Piroš Kanadji, ce moine écossais, théologien mystique, qui fut prieur de l'abbaye de Saint-Victor à Paris de 1162 à sa mort en 1173, Richard de Saint-Victor donc a travaillé à une mise en ordre morale des émotions, depuis la crainte jusqu'à la contemplation, en 12 degrés, et ce, dans un traité intitulé « Les 12 patriarches » qui classe les 12 fils de Jacob dans une dynamique spirituelle qui mène jusqu'à Benjamin, chacun de ses fils étant associé à un affect. Donc, littéralement, un homme d'ordre qui met en ordre les émotions. Et remarquons d'ailleurs que la honte, ou en tout cas la bonne honte, Vera Pudor, y est traitée comme une vertu spécifiquement féminine. Si les émotions sont ordonnées, c'est que dans le domaine de la chair, moins le désir est obsédant, plus il est acceptable, alors qu'à l'inverse, dans le champ de l'esprit, plus il est violent, plus il est efficace. On retrouve donc ici la mystique cistercienne des intensités d'un amour immodéré, intense, démesuré, selon la formule célèbre de Bernard de Clairvaux, la mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure. Mais comment imaginer que ça puisse tenir, ce cloisonnement, dès lors qu'il y a l'intensité du désir? Telle est la véhémence de l'amour qui confère à la charité la même violence érotique que celle qui saisit l'amant courtois et le rend esclave de sa dame. Ainsi, la violente charité blesse avant d'enchaîner. Elle blesse quand le trait enflammé de l'amour pénètre l'âme humaine. Elle la lie sans répit lorsque, je le cite encore, elle ne peut oublier l'unique objet de son amour. Dans son sommeil, elle en rêve, éveillée, elle y songe à toute heure. Alors, et c'est le troisième degré de la violente charité, plus de retraite possible, l'âme s'anéantit en une totale longueur, et ce n'est pas fini, car il existe un dernier degré, le quatrième, dans l'ardent désir, qui est celui de la défaillance. Celui qui en est atteint en est comme d'un malade dont l'état est désespéré. Difficile, à la lecture d'une telle phénoménologie du mal d'aimer, de penser que la caritas puisse n'être qu'une force d'édification de la société chrétienne. Difficile d'oublier la formule de Jacques d'Alarin. Le bois de la croix est à la fois la charpente et l'écharde des sociétés médiévales. Difficile d'oublier que le christianisme, en somme, a toujours une capacité de scandale qui en fait une religion dominante si peu armée pour la domination. Je lis à présent un passage incandescent de ces quatre degrés de la violente charité. Grande est la force de la dilection, étonnante la puissance de la charité. Elle comporte de nombreux degrés différents beaucoup l'un de l'autre. Qui pourrait les distinguer convenablement ou seulement les dénombrer? On retrouve évidemment dans l'amour les sentiments d'humanité, d'amitié, d'affinité, ceux que crée le sang, la fraternité et beaucoup d'autres de ce genre. Mais au-dessus d'eux, il y a cet amour brûlant et bouillonnant qui pénètre le cœur, enflamme les sentiments et transperce si profondément l'intimité de l'âme qu'elle peut dire en toute vérité « Je suis navré d'amour ». Je suis navré d'amour. Cantique des Cantiques 4, 9. Nous y voilà. Je serais presque tenté de dire cette autre Bible de l'Occident, cette Bible de la politique de l'amour, le Cantique des Cantiques. C'est là-dessus que ça débouche, et c'est évidemment vers lui qu'il nous faut à présent faire porter nos efforts. Qu'est-ce que le Cantique des Cantiques? C'est un poème, ou plutôt une suite de poèmes, des chants d'amour alternés entre un homme et une femme qui tentent de se rejoindre, qui contournent des obstacles et qui parviennent ultimement à s'aimer. À s'aimer à combien? Combien sont-ils? Dans cet opéra biblique en forme d'épithalame, on peut avoir le sentiment, à certains moments, qu'il y a plusieurs couples qui se disent l'époux et l'épouse, qui prennent à témoin d'autres personnes, le cœur, assurément, des filles de Jérusalem, pour l'épouse, des anges, peut-être, pour l'époux, parfois même des éléments de la nature. L'un de ces nombreux commentateurs du premier tiers du XIIe siècle, l'abbé cistercien Guillaume de Saint-Thierry, insiste sur la théâtralité de ce récitatif, qui joue de mimique, in modum dramatis et stylo comico. Personnages et sentiments, je le cite, comme au théâtre gestes et acteurs, s'y concertent, croirait-on, pour mener au dénouement l'amoureuse intrigue. Et le nom même de ce livre biblique se dit en hébreu d'un superlatif, Shir Hashirim. Shir Hashirim, le plus beau de tous les chants, la poésie par excellence. Les biblistes estiment aujourd'hui qu'il aurait été composé au IVe siècle avant notre ère, en écho avec la poésie érotique du Proche-Orient ancien, ce qui expliquerait le contexte pastoral dominant les métaphores amoureuses. « Raconte-moi, bien-aimé de mon âme, où tu mènes paître tes brebis, » dit la belle épouse. Pareil aux tentes de Kédar, que l'époux, dit-elle, soit pareil à la gazelle sur les chemins escarpés. Et quand il s'adresse à elle, il dit « Ta chevelure, un troupeau de chèvres qui dévale du Galaad ». Cette poésie transposerait donc, dans le monde humain, des textes épiques, décrivant, en Mésopotamie notamment, les aventures de la déesse de la volupté Ishtar, et de son amant, Tammuz, berger et roi. Ishtar était, comme l'épousée du Cantique, escortée des animaux de la steppe, lion et gazelle, et son temple à Babylone se nommait l'Etur Kama, la maison qui est la bergerie du pays. La Mishnah, qui est le premier recueil de la loi juive orale, qui a été compilé au IIIe siècle de notre ère, de l'ère chrétienne, la Mishnah témoigne des vifs débats qui agitèrent les autorités rabbiniques sur l'opportunité de rejeter comme profanes ces chants d'amour qu'on entonnait, disent-ils, dans les tavernes. Rappelons qu'en hébreu, l'amour se dit d'un mot et d'un seul, universel et univoque, Ahava, qui dit tout, qui dit l'affection d'Abraham pour son fils Isaac, celle de Jonathan pour son ami David, celle du peuple d'Israël pour David, celle de Dieu pour le peuple d'Israël. Et c'est un amour qui est inconditionnel, c'est un amour qui est aveugle, c'est un amour qui ne demande rien, sinon un sentiment de loyauté qui entraîne des actions, qui entrent dans ce qu'on pourrait appeler une politique de l'amour, aimer, c'est se préparer à craindre, à suivre, à servir, à obéir. On notera au passage que c'est ce seul mot hébreu de Ahava que le grec biblique traduit par agapé, même si on a vu la semaine dernière que cela ne pouvait le séparer de la pulsion érotique de l'éros. Alors fallait-il rendre le cantique des cantiques à la littérature profane ou l'accepter dans la Bible hébraïque ? Le texte fut finalement retenu au premier siècle après notre ère, la tradition juive les intégrant aux cinq rouleaux ou mégilotes, avec les livres de Ruth, d'Esther, les Lamentations et l'Ecclésiaste, ces cinq rouleaux qui sont lus en public lors de certaines fêtes de l'année liturgique. Et pour le cantique des cantiques, c'est Pessah. Et voilà pourquoi c'est le soir de la Pâque juive que, dans le film de Sergio Leone, Il était une fois en Amérique, la jeune Déborah récite à sa façon le poème amoureux à ce voyou de Noodles. Et pourquoi Pessah ? Parce que l'interprétation allégorique qui domine dans le monde juif est que le poème est porteur d'une description de l'amour du Dieu d'Israël pour son peuple. Voilà mon bien-aimé, voilà qu'il arrive bondissant au-dessus des montagnes, serait une allusion au passage de Dieu dans la nuit pascale. Mais le texte hébreu ne comporte pas le nom de Dieu, sinon sous sa forme abrégée. fort comme la mort est l'amour, dur comme le séjour des morts, est l'envie. Ces foudres sont des foudres ardentes, une flamme de Yod et Dieu, on le sait, est imprononçable dans le judaïsme. Son nom est une énigme et il est rendu dans l'hébreu biblique par le tétragramme consonantique Yod et Vav et translittéré en latin YHWH. C'est seulement durant le premier millénaire de l'ère chrétienne que les savants juifs qu'on appelle les Massorètes, gardiens en araméen, établissent des règles de vocalisation du texte sacré et la prononciation dite massorétique prête au tétragramme les voyelles de Adonai, mon Seigneur, donnant donc Yahvé ou Jéhovah. Mais dans son grand livre paru en 2014 sous le titre « L'invention de Dieu », Thomas Romer a établi que la prononciation originelle a probablement été Yahou ou Yahu, ce qui correspond à la forme courte du nom divin Yod et Vav, trois lettres. Or, justement, dans le Cantique des Cantiques, elle est encore tronquée, deux lettres seulement, Yod et. Et cette forme exclamative, donc Yah, ne connaît que de rares occurrences dans la Bible hébraïque pour exprimer l'élan de la prière. Ainsi, dans Exode 15-12, « Ma force et mon chant, c'est Yah ». Et on le retrouve surtout dans l'exclamation liturgique « Nous enjoignons à louer le Seigneur, Alléluia ». Et si j'osais, je vous renverrai volontiers ici encore à une chanson, celle de Leonard Cohen. Devenue un hymne mondial, cette ballade puissante, somptueuse, sombre, réjouissante, dont personne au fond ne peut vraiment dire si elle est infiniment triste ou délicieusement joyeuse. Alléluia, donc, de Leonard Cohen joue de toute l'ambiguïté des métaphores du Cantique des Cantiques qui le hantaient. Elle commence par une méditation sur l'accord mystérieux que trouve, sans le chercher, le roi perplexe David. La carte, la quinte, le mineur tombe, le majeur monte. Et s'achève par l'évocation d'une femme aimée et perdue, éperdument aimée puis perdue. Je me souviens quand je bougeais en toi, comme bougeait elle aussi la colombe sacrée, et chacun de nos souffles était un Alléluia. Il faut sans doute l'avoir seulement entendu d'une oreille distraite dans Shrek, ou ne pas vouloir comprendre ses paroles pour le choisir, comme c'est le cas aujourd'hui, comme chanson de mariage. Ça dit « Love is not a victory march, it's a cold and it's a broken. Alléluia. » Car revenons au texte du Cantique des Cantiques. Fort comme la mort et l'amour, dur comme le séjour des morts et l'envie, ces foudres sont des foudres ardentes, une flamme de Yah. L'amour n'est pas plus fort que la mort. Non. Aimer, c'est se placer devant la mort, de s'y placer crânement, souverainement, librement. Je reprends la lecture de Thomas Romer, mais cette fois-ci à partir d'un article où il étudie le passage du motif du jardin des dieux, tel qu'il se développe notamment dans l'épopée de Gilgamesh, ce motif du jardin céleste, évidemment, de la Genèse, à celui du Cantique des Cantiques. Là, dans le Cantique du Cantique, tout s'ouvre, tout s'offre. Ce n'est pas dans le petit jardin clos que se déploie le rapport érotique entre l'époux et l'épousé, qui dit « Je suis à mon bien-aimé et son désir se porte vers moi. » Et elle poursuit « Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, passons les nuits dans les villages, au petit matin nous irons dans les vignes, voir si la vigne bourgeonne, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mes caresses ou mes seins. » Parce que selon la manière dont on le vocalise, caresse et saint peuvent se dire du même mot en hébreu. Je n'ai pas besoin de relever ici tout ce que la poésie amoureuse du XVIe siècle fera de ce thème. Mignonne, allons voir si la rose en imaginant le corps blasonné de la femme aimée comme un paysage immense, replié, où l'amant pénètre, nouveau Gulliver, pour jouir de ses paradis artificiels. Comme l'a montré Françoise Joukowski dans son livre sur les poètes de la Pléiade, Le bel objet, cette érotisation d'un jardin clos, qui prend la dimension d'un monde, je la cite, aboutit à une sorte de paysage humain qui a sa végétation, le jardin bouquetier des lèvres, ses astres, les deux yeux, ses moissons, la chevelure. Mais dans le Cantique des Cantiques, cette intériorisation du jardin d'Éden a évidemment des conséquences immenses sur l'économie de la chute. L'épouse et l'époux partent s'aimer au large, en grand, dans les champs, les vignes, les villages. Ils sont sortis du jardin clos et on ne les y reverra plus. Mais que dit l'amoureux ? Tu es un jardin clos, ma sœur, ma chérie, une fontaine close, une source scellée. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma chérie. Je recueille ma myrrhe avec mes essences odoriférantes. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Alors bien entendu que ce qui s'entend là est aussi une prise de possession à la paysanne, dirait Georges Duby, qui n'est pas moins violente à se dire avec les accents irrépressibles d'une prière, de l'élan d'une prière. Mais c'est le prix d'une décision immense, la sortie du jardin originel est pleinement acceptée, et avec elle, la nature pécamineuse de l'être humain, donc la légitimité des relations de pouvoir. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est aussi une prise de possession. C'est une prise de pouvoir. Parce que si on sort du jardin, alors commence la politique. Car de quelle nature était le dominium d'Adam sur les êtres vivants ? Est-il naturel que l'homme commande à la nature, aux animaux ? Quelle relation ce pouvoir entretient-il avec l'acte de nommer ? Ces questions, qui sont des questions pour aujourd'hui, le Moyen-Âge chrétien se les posait déjà, et à partir d'une réflexion sur la chute, c'est-à-dire la faute d'Adam, et le moment où il fut chassé du paradis. Faisait-on de la politique dans le jardin d'Éden ? Non, sans doute, on n'en avait nul besoin. Marcille de Padoue l'affirmait dans son Défenseur Pacis, 1318-1324. S'il était resté dans cet état, Adam, donc s'il était resté dans l'état d'innocence, il n'eût pas été nécessaire d'instituer et de distinguer les fonctions civiles, ni pour lui, ni pour ses descendants. Mais il y eut la chute, et la politique vient après la chute, et le pouvoir des laïcs après la chute, puisque selon Augustin, c'est bien le péché originel qui instaure une séparation entre deux états, deux cités, la cité de Dieu et la civitas terrena, qu'il appelle parfois civitas diaboli. La première incline vers l'amour de Dieu, la seconde penche vers l'amour de soi, mais la première préexiste à la seconde et donc, précisent les commentateurs, les clercs évidemment, Pierre le Chantre, Hugues de Saint-Victor, la prélature existe ante peccatum. L'autorité épiscopale est avant le péché, tandis qu'au contraire, le pouvoir temporel naît de la nature pécheresse de l'homme. Voilà, disent les clercs, l'origine honteuse de tout pouvoir, on l'exerce ou on le subit, malgré tout, faute de mieux, en attendant mieux. Voilà en quoi, dans le Cantique des Cantiques, se noue politique et poétique de l'amour, et le lieu de ce nouage qui le traverse et le transporte, c'est le corps. Il n'y a pas de retour possible dans la Bible, sinon dans cette intériorisation. Aller chercher le jardin clos dans le corps de l'être aimé. Une femme, ici. Mais est-ce toujours une femme ? Pour peu qu'il y consente. Car telle est la loi du désir. Elle s'exprimait de manière impérieuse avec après l'expulsion du jardin originel, et s'imposait à la femme. « Ton désir sera vers ton homme et lui règnera sur toi. » Genèse 3, 16. Et c'est la réponse, le consentement, qu'on entend dans le Cantique des Cantiques 7, 11, celle que j'ai déjà citée. « Je suis à mon bien-aimé et son désir se porte vers moi. Or, ce désir, comme dans le jardin d'Éden, est aussi un désir de connaissance. Voilà pourquoi le Cantique des Cantiques est reçu au Moyen-Âge comme une poésie sapientiale, poésie de sagesse. Et voilà pourquoi on l'attribue à Salomon. Son nom latin, Canticum Canticorum Salomonis, incite donc les commentateurs à en faire une leçon de sagesse. Et cette sagesse de l'amour ne peut se penser que poétiquement, puisque, là encore, se noue poésie et savoir, et que c'est même la poésie de ce chant qui, pour les docteurs, et déjà pour les rabbins au IIIe siècle de notre ère, c'était sa poésie qui militait pour sa canonicité. Il serait évidemment inconvenant, alors, de prendre ce texte au pied de la lettre. On doit avoir recours pour la comprendre, le comprendre, à l'allégorie, c'est-à-dire littéralement l'autre interprétation. Salomon s'y montre théologien en traitant de l'amour de Dieu. Et Pierre de Jean Olivier l'affirme encore avec vigueur au XIIIe siècle. Est hérétique, est blasphématoire. Celui qui pense que Salomon aurait écrit ce chant pour la fille de Pharaon. Bien au contraire, le Cantique des Cantiques enseigne à ramener à Dieu les réalités sensibles, à y être conduit charitablement par la main. Le mot est manuductio. Et si l'on y voit de l'amour charnel, bah c'est votre problème. Ah, c'est du fait de notre propre vice. Pourtant, comme le démontrent les travaux de Gilbert Dahan, si aucun glosateur médiéval ne propose une lecture érotique du Cantique des Cantiques, aucun non plus ne l'occulte absolument. Et c'est ça, évidemment, la clé. La clé de cette vogue extraordinaire des commentaires du Cantique des Cantiques, qui commence précisément au XIIe siècle. On connaît 113 témoins manuscrits des extraordinaires sermons de Bernard de Clairvaux, qui glose pied à pied chaque verset du texte biblique. Mais le commentaire de celui qu'on appelle Honorius d'Autun, mais on sait aujourd'hui qu'il est de Ratisbonne, est sans doute aussi lu, puisqu'on en connaît 114 manuscrits. Cette extraordinaire fortune exégétique concerne aussi bien des théologiens connus comme Rupert de Deutz ou Guillaume de Saint-Thierry et d'autres qui le sont moins comme le moine cistercien Thomas de Persaigne qui rédige son commentaire dans les années 1180. Et les 87 manuscrits, 87 quand même, hein, c'est beaucoup, hein, que l'on conserve de son œuvre et que le médiéviste David Bale, d'autres David Bale que celui dont nous parle Antoine Lilti, a fort bien étudié ces commentaires, en font une véritable encyclopédie des explications allégoriques. Le texte de Thomas de Persaigne, d'ailleurs, il est réimprimé à Paris en 1521, puis à nouveau à Lyon en 1571, parce que le temps des commentaires du Cantique des Cantiques, il configure précisément du XIIe au XVIe siècle, cette séquence des politiques de l'amour dont je tente d'imaginer ici l'histoire. Ça veut dire que Martin Luther, Jean Calvin, s'inscrivent pleinement dans cette tradition, et la traduction des livres de Salomon par Sébastien Castellion en 1555, et les livres de Salomon, c'est Proverbes, Ézéchiel, Cantique des Cantiques, l'amène, lui, à repartir de l'hébreu, de la Bible rabbinique de Jacob ben Ishahim, ce qui lui vaut les foudres des ministres genevois et de Théodore de Bèze. Donc, c'est aussi un grand enjeu de la réforme, toujours d'une réforme à l'autre. Mais au XVIIe siècle, Bossuet prétend ne plus lire le Cantique des Cantiques autrement que comme le chant des noces de Salomon avec la fille du pharaon, donc il est hérétique pour Pierre de Jean Olivier, et où d'une certaine manière, il en fait, à la manière de Lastrée, une sorte de poésie où le roi se déguise en berger et son amoureuse en bergère de comédie ballet. Alors j'en parlais tout à l'heure, enfin il y a une minute, le lundi c'est Lilti, moi j'écoute Antoine Lilti, vous aussi peut-être, et hier il nous a parlé de ses rogatons voltairiens, de ses opuscules dont Voltaire inondait ses amis et peut-être la terre entière. Alors j'en ai cherché un, j'ai trouvé, hein, évidemment, parce que de cette tradition, enfin évidemment, pas parce qu'il a écrit à peu près sur tout, et que Voltaire s'est aussi inscrit dans cette tradition bucolique de la pastorale sacrée, mais justement qui commence avec Bossuet, et que, alors il en a traduit seulement ce qu'il comprenait, ou seulement ce qui l'amusait, de ce qu'il appelait le poème le plus tendre et même le plus seul, et même le seul de ce genre qui nous soit resté de ce temps reculé. Et il l'a fait pour Madame de Pompadour, qui voulait se faire dévote sans en être incommodée. Entendez, sans changer de mode de vie. Et pour ça, le Cantique des Cantiques, c'est pas mal, parce que elle lit ce qu'elle a l'habitude de lire, de la poésie galante, et on lui dit, mais en fait, ça va vous élever vers Dieu. Bon. L'opuscule est intitulé « Précis du Cantique des Cantiques » et paraît en 1759. Et Voltaire prétend y revenir à la lettre du texte, mais en fait, il parodie la philologie en appelant l'époux le chaton, feignant de le tirer du mot hébreu aton, qui signifie le fiancé ou le gendre, mais qui de toute façon n'est pas employé dans le Cantique des Cantiques. Bref, il y a là un geste de rupture qui surjoue l'abandon de ce monde médiéval de la glose. On s'est abstenu surtout, écrit-il, de toucher aux sublimes et respectables allégories que les plus graves docteurs ont tirées de cet ancien poème. On s'en est tenu à la simplicité non moins respectable du texte. Alors, que dire, justement, de ces sublimes et respectables allégories ? Il est impossible de rendre compte de la complexité, de la profusion, de cet immense travail exégétique que Paul Ricoeur, qui cherchait pour lui à ramener strictement tout ça à un sens nuptial, désignait comme aussi exubérant qu'encombrant. L'une de ces constantes est que toutes ces gloses procèdent de la lecture d'Origène, théologien grec du IIIe siècle, qui est considéré comme le père de l'exégèse biblique et de ses quatre degrés, sens littéral, allégorique, tropologique, anagogique, et dont, je le dis au passage, Eusèbe de Césarée affirmait qu'il s'était auto-castré en lisant littéralement l'Évangile selon Matthieu, sur ceux qui se sont fait eunuques pour accéder au royaume de Dieu. Et puis, à la fin de sa vie, il regrettait un peu en disant, finalement, c'est ça le sens littéral. Ça, littéralement, ça vous coupe vos effets. Et donc, il faut, au fond, saisir l'ensemble de ces quatre degrés. On aura d'ailleurs à revenir sur cette question de la castration, et pas seulement avec Abélard. Pour Origène, la parade amoureuse de l'époux et de l'épousée ne peut être interprétée qu'au degré le plus haut de l'anagogie qui engage sur la seule voie du perfectionnement spirituel, de l'accomplissement eschatologique. Et ce que l'on y doit lire, c'est donc le dialogue entre l'âme et Dieu. Et chaque lecteur, homme et femme, est invité à s'identifier à l'amoureuse qui s'offre à l'amant divin. D'autres métaphores, évidemment, viennent s'articuler par emboîtement successif sur ce déplacement analogique. Si l'époux est Dieu et l'âme l'épousée, alors l'épousée est aussi l'Église, donc c'est aussi la Vierge Marie, ce qui explique pourquoi on parle de son jardin clos. Et on retrouve ici la puissance analogique de la matrice ecclésiale dont nous parlions la semaine dernière, mais dont nous disions aussi qu'on se doit de constater qu'elle ne recouvre pas tout. Je vous lis le passage clé car il est assez beau. Comment comprendre ce verset « Je suis navré d'amour » qui est traduit pudiquement dans l'édition des sources chrétiennes par « Je suis blessé de charité ». Mais la Vulgate donne plus nettement « Si quia amore langueo ». Là, pour le coup, même la Vulgate dit « amor ». Bon, elle se languit bien de la maladie d'amour. S'il est quelqu'un quelque part qui a été parfois, je cite donc Origène, 3e siècle, s'il est quelqu'un quelque part qui a été parfois consumé par cet amour fidèle du Verbe de Dieu, s'il est quelqu'un, comme dit le prophète, qui a reçu la douce blessure de sa flèche de choix, s'il est quelqu'un qui a été percé par l'aimable trait de sa science au point de soupirer, de désirer vers lui jour et nuit, de ne pouvoir parler de rien d'autre, de ne vouloir entendre rien d'autre, de ne pouvoir penser à rien d'autre, de ne prendre plaisir à désirer, souhaiter, espérer rien d'autre que lui, cette âme dit avec raison « Je suis blessée de charité ». Elle a reçu la blessure dont parle Isaïe. Il a fait de moi comme une flèche de choix. Il m'a caché dans son carquois, Isaïe 49, 2. Il convient que Dieu frappe les âmes d'une telle blessure, les perce de telles flèches, de tels traits, les meurtrisse par des blessures salutaires, afin, puisque Dieu est charité, qu'elle dise elle aussi « Je suis blessée de charité ». En entendant cela, qu'est-ce que vous allez imaginer? Je veux dire, quelle image s'invite sous vos paupières? Je ne vais pas vous forcer, mais pour moi, irrésistiblement, celle du ravissement mystique de Sainte Thérèse d'Avila qui palpite sous les plis cassants du marbre, tel que Bernin l'a sculpté dans la chapelle Cornaro de Santa Maria della Vittoria à Rome. Une femme de marbre, nous y revenons, mais d'un marbre qui souffre et qui exulte, puisque dans son extase, la sainte a vu l'ange, jeune et beau, la transpercer de sa lance. La douleur était si grande qu'elle me faisait gémir, écrit-elle en 1556 dans son livre de la vie. Et pourtant, la douceur de cette douleur excessive était telle qu'il m'était impossible de vouloir en être débarrassé. Car, poursuit-elle, c'est une si douce caresse d'amour qui se fait alors entre l'âme et Dieu. Alors, écoutez à présent bougonner le bon docteur Jacques Lacan. Lors de la séance du 20 février 1973 de son séminaire publié sous le titre « Encore », évidemment qu'elle jouit, ça ne fait pas de doute. Mais la question est, de quoi jouit-elle, sinon d'un langage qui lui fait éprouver ce qu'elle ne veut pas comprendre? C'est comme ça, je cite, « que chez l'être parlant, la jouissance est appareillée », écrit-il. Et le langage est son unique appareil, ce qu'a compris Origène, mais un peu tard. Il est facile de trouver dans le flot exégétique qui inonde le sens du Cantique des Cantiques depuis le XIIe siècle, qui l'inonde, oui, mais qui ne parvient pas à nouer, à noyer sa flamme érotique, il est facile d'y trouver la source de la fable mystique qui embrase à nouveau le XVIe siècle, et pas seulement chez les femmes. On pense évidemment à Jean de la Croix, dont le Cantique spirituel, composé entre 1573 et 1585, sous le titre « En quel lieu t'es-tu caché ?», cherche dans la nuit obscure la voie qui mène à l'exercice d'amour entre l'âme et son époux divin, sa poésie mystique réécrivant le chant de l'épouse du Cantique des Cantiques. Mais revenons à présent à ces commentateurs médiévaux. Parmi les nombreuses conséquences exégétiques qu'ils tirent de leur glose, deux méritent d'être relevés pour mon propos, et toutes deux ressortent déjà des catégories mystiques de l'expérience et de la démesure, c'est-à-dire d'un exercice spirituel qui se laisse déborder par la violence de l'amour. La première concerne ce que Étienne Gilson appelait le socratisme chrétien, c'est-à-dire que l'amour est ce qui nous rapproche de Dieu et de nous-mêmes, c'est un moyen de connaissance, en premier lieu de connaissance de soi, et on le comprend dans un passage saisissant du commentaire du moine cistercien Guillaume de Saint-Thierry, qui est relevé par Rudy Imbard, lorsque la femme dit « Raconte-moi, bien-aimé de mon âme, où tu mènes paître tes brebis ?» et lorsqu'il répond « Si tu ne le sais pas, ô belle, entre les femmes, va dehors sur les traces du troupeau », comment comprendre ça? Guillaume de Saint-Thierry glose ainsi « Si tu ne te connais pas, sors », veut dire « Si tu sors de chez toi, c'est que tu ne te connais pas ». Connais-toi donc, ô mon image, c'est Dieu qui parle. Connais-toi donc, ô mon image, c'est Dieu qui parle. à l'homme ou à la femme. Connais-toi donc, ô mon image, ainsi me pourras-tu connaître, moi dont tu es l'image, au fond de toi, tu me trouveras. Écrivant la vie de son ami Bernard de Clairvaux, Guillaume de Saint-Thierry, c'est assez beau, raconte comment en 1124, malades tous les deux, et au chevet l'un de l'autre, de l'infirmerie de Clairvaux, ils se consolaient en discourant des vertus comme remède aux maladies et de la nature spirituelle de l'âme. C'est alors, écrit Guillaume de Saint-Thierry, c'est alors qu'il m'expliqua le Cantique des Cantiques, dans son sens moral seulement, autant de temps que le permit la durée de ma maladie. Alors il faut dire que Guillaume et Bernard entretenaient une amitié dévorante, au point que Bernard avait cru devoir l'éloigner de Clairvaux en 1121. Mais là, ils se retrouvent pour partager une commune vulnérabilité. Au fond, c'est l'histoire de deux hommes qui font les femmes. Au sens, ils font l'expérience, pour les médiévaux, de la faiblesse du corps et de la force du texte. La première ouvre à la seconde. Et c'est ainsi, comme l'a bien montré le philosophe et théologien Emmanuel Falk, que cette expérience du cantique se mue progressivement en cantique de l'expérience. Parce que pour Bernard de Clairvaux, on ne sait rien si on ne l'éprouve pas. Ainsi débute son troisième sermon sur le Cantique des Cantiques. Aujourd'hui, nous lisons dans le livre de l'expérience. Mais ce livre de l'expérience, c'est ce que ça lui a fait à lui, dans cette position de fragilité, de s'ouvrir, de s'offrir au cantique. Le sens de l'expérience, il n'est pas délimité par le champ clos du texte à déchiffrer. Il s'ouvre au monde de la vie tel que la vie est transformée par le texte. Autrement dit, si le Cantique des Cantiques est un chant d'amour, c'est parce qu'il est le chant de la connaissance de soi, de l'expérience, que son herméneutique réside moins dans un sens caché que dans l'effet qu'il produit. Et cet effet, c'est celui d'une déflagration, d'une explosion de désir, quel que soit le soin des glosateurs à le contenir ou à le circonscrire par l'allégorie. Car à lire le sermon 83 que le réformateur de Citeaux consacre au dialogue entre l'époux et l'épousée, on est saisi par l'expression d'un amour immodéré, inconditionnel, qui emporte tout, « qui amat, amat et aliud nihil », Novit, celui qui aime, aime et ne sait rien d'autre. Et encore, j'aime parce que j'aime, j'aime pour aimer. Savez-vous le moyen de résister? Il faudrait donc, dit Grégoire de Nice, avoir le courage de découvrir l'impassibilité derrière les paroles qu'on pense être celles de la passion. Mais personne n'y arrive. Paul Claudel n'y parvenait pas. Lui qui, en 1943, alors qu'il cherche à commenter le Cantique des Cantiques, est brutalement rappelé par une représentation du partage du midi au souvenir longtemps refoulé de la violence du désir. Et alors il se dit, mais pourquoi une aspiration si pure à la connaissance de soi, à l'élévation de l'âme vers Dieu, pourquoi doit-elle se dire dans le langage si cru de l'amour? Pourquoi, écrit-il, cette insistante, fatigante sur les idées de parfum? Mais parce qu'il y a ces mots si anciens dont le feu couve toujours sous la cendre des commentaires à les mieux ordonner. Et parce qu'il y a ces corps traversés par les mots, ces corps parlants, qui portent une part irréductible, insécable, irrécupérable. Et tout était déjà là, bien avant nous. Parce que ça commence ainsi. Qu'il me baise d'un baiser de sa bouche, dans le latin de la Vulgate. Osculetur me osculo oris suis. Et si le baiser est substantif, commande Saint Bernard, c'est parce qu'il est le Christ lui-même. Et ça commence comme ça. Sans crier gare. Qu'il me baise d'un baiser de sa bouche. On entre dans l'amour sans approche, sans préliminaire, puisqu'il est toujours déjà là. On saute dans le train en marche. Ah, Bernard de Clairvaux ne dit pas on saute dans le train en marche, c'est vrai. Il dit quelque chose comme « on entre dans une conversation infinie, celle entre Dieu et le peuple qu'il sauve, mais celle aussi entre l'homme et la femme qui a commencé avant nous et dont nous procédons tout de même. » Bon. « Et de fait, écrit-il, comment ne nous rendrait-il pas très attentifs un tel commencement sans commencement, et une telle nouveauté de l'expression dans un livre si ancien. Quand même assez beau. Comment ne nous rendrait-il pas très attentifs? Ça veut dire que c'est, au fond, à la fin, c'est aussi un texte sur l'amour des textes. Un tel commencement sans commencement et une telle nouveauté de l'expression dans un livre si ancien. Cette volupté, elle s'apparente au fond davantage à l'analogie poétique que décrit André Breton dans La Clé des Chants, qu'à l'analogie mystique, parce que l'analogie poétique, elle ne déchire pas la trame du monde visible, elle la laisse miroiter et agir. Et il en va ainsi de la beauté des corps. Préexiste-t-elle aux mots qui la font advenir poétiquement? C'est tout l'enjeu de la discussion de cette parole mystérieuse de la fiancée du Cantique des Cantiques qui s'adresse ainsi au cœur des filles de Jérusalem. Nigra sum sed formosa. Je suis noire, mais je suis belle. Ce verset a plongé les exégètes occidentaux dans un certain embarras. Pour autant que les exégètes puissent être par quoi que ce soit embarrassés, écrit finement Jean-Yves Tilliette. C'est que tout clair qu'ils étaient, ils étaient habitués à lire de la poésie, c'est bien, on en parlera, voilà. Au XIIe siècle, ils lisent en même temps des poèmes où les gorges sont d'ivoire, les seins immaculés et les coups de neige. Si la chair n'est pas ici lactescente, l'explication ne peut venir de la couleur de la peau, quoi qu'en dise l'amoureuse elle-même, qui se dit brûlée par le soleil, et quoi qu'on puisse tirer de l'histoire biblique. Après tout, Salomon s'est uni à la reine du Midi, et Moïse eut pour épouse une Éthiopienne. Non, non, cette peau ne peut être noircie que par le péché. Et ce sont les compliments de son amant qui la lavent de cette nature pécamineuse et la rendent toute belle. Ainsi, la beauté n'est pas la cause de l'amour, comme dans le Banquet de Platon, mais son effet. La bien-aimée n'est pas préalablement belle, elle est belle d'être aimée, d'une beauté survenant par-delà sa noirceur initiale. Et c'est son amant qui lui dit alors « Que tu es belle, ma bien-aimée ». Et alors son chant d'amour convoque un à un tous les éléments de son monde propre. Alors ses yeux sont des colombes, ses cheveux un troupeau de chèvres, ses dents des brebis tondues, ses joues des moitiés de grenades, ses seins de faon. L'époux est comme Adam dans la Genèse, il nomme ce que Dieu a créé silencieusement. C'est lui qui a donné leur nom aux bêtes. Et d'ailleurs, il ne les a pas dit, il les a criés. Car si Dieu parle aux hommes, il leur a surtout donné le don de la parole, qui est celui de faire advenir les choses en les nommant. On se tue à vous dire que l'inconscient est structuré comme un langage. Ainsi que le précise l'exégèse juive du Midrash Rabba, les anges chantent mais ne nomment pas. L'homme, lui, a dénommé les bêtes dans le jardin originel, et voilà que maintenant qu'il sait qu'il n'y reviendra pas, il détaille le corps de l'aimé, il le blasonne, c'est-à-dire qu'il le dit à la découpe, en lui donnant justement, mais ce don est comme tous les dons un poison, des noms de bêtes. Dans un livre magnifique et surprenant qui s'appelle « Symbolique du corps, la tradition chrétienne du Cantique des Cantiques », Jean-Louis Chrétien a entrepris lui aussi de blasonner ce corps, porte-parole d'une interprétation spirituelle qui invite à la fois à la magnification amoureuse et à, je ne veux pas dire une désincarnation, mais disons une allégorisation incorporelle. Avec une conviction à la fois phénoménologique et théologique, je le cite, « Il n'est rien que la scintillante lueur du corps humain ne puisse éclairer. Mais si on l'idolâtre pour lui-même, on le profane en même temps qu'on le plonge dans l'insignifiance. » Aussi suit-il toute la tradition exégétique de ce corps aimé du Cantique des Cantiques en le détaillant chapitre par chapitre. Et les chapitres s'appellent les dents, le nez, les lèvres, le cou, les yeux, les joues, la chevelure, les seins, le ventre, le nombril, les jambes, les pieds, les mains, enfin, miroir de l'homme et chemin de ses œuvres. Que l'on s'arrête un instant sur les seins. 8 occurrences dans la Vulgate. La bien-aimée est comme un bouquet de myrrhe entre les seins de l'épouse, le bien-aimé, pardon. Ceux-ci sont comparés à 2 cabris, 2 chevreuils, des faons, des grappes de raisins, palmiers, au mur d'une tour. Le vœu est fait d'un frère qui têtait les seins de sa mère, et il est question d'une petite sœur qui n'a pas encore de seins. Mais déjà, au XIVe siècle, Nicolas de Lyre allait chercher l'hébreu sous le latin, et je l'ai dit, d'autres mots peuvent se vocaliser différemment, amour, caresse, et on en trouve alors trois occurrences supplémentaires. Aussi est-ce l'épousé qui dit à l'époux « car tes seins sont meilleurs que le vin ». L'épousé à l'époux. Et encore, beaucoup de nombreux, enfin tous les commentateurs modernes, ou presque, s'en étonnent en disant « bah les hommes n'ont pas de seins ». Ah bon ? Faut sortir un peu, enfin, ou en tout cas, ou je sais pas, lire le nouveau désordre amoureux, mais bon. Y a là quelque chose qui est fascinant, enfin, je veux dire, Luther lui-même n'ignorait pas cette difficulté. Évidemment, il se raccrochait à l'allégorie. Bon, bah, les seins, c'est les mamelles de l'Église, qui ne peuvent couler que de ces mamelles que le lait de la doctrine. Bède le Vénérable ne disait-il pas, c'est à bon droit que les saints sont comparés aux deux petits d'une gazelle, parce que les docteurs véritables empruntent tout ce qu'ils prêchent aux paroles de l'un et l'autre testament. Oui, sans doute. Sauf que dans le Cantique des Cantiques, ces deux fonds qui pèsent dans les lys sont insaisissables. Lorsque tu veux les saisir, écrit dans la seconde moitié du XIIe siècle le moine clunisien Gilbert Folliot, personnage très politique, qui devient évêque de Londres, émissaire du roi Henri II, adversaire acharné de Thomas Becket. « Lorsque tu veux les saisir, écrit-il, comprehendere, ils s'enfuient aussitôt loin de toi et tu les vois s'élever vers les hauteurs. » Dans la glose biblique comme en amour, tout fuit, tout s'échappe. Parce que les mots sont comme les corps qu'ils exaltent en les masquant, ils vivent de leur vie propre, sauvage, intranquille, et jamais on ne les domestiquera en les assignant à la résidence du sens. Et à lire ce livre, je parle toujours de symbolique du corps de Jean-Louis Chrétien, on reste quand même ébahi par l'inventivité des auteurs chrétiens pour voir autre chose que ce qu'ils ont sous les yeux. Pour troquer l'ivresse poétique pour celle de l'interprétation. Car tes seins sont meilleurs que le vin. Mais reste l'essentiel. Ce quelque chose, ils l'ont sous les yeux. Ils ne le quittent jamais du regard. Ils les débordent et les dépassent. Et ils savent que si le chant du corps n'a pas de fin, c'est que, ainsi que le disait Spinoza, nul ne sait ce que peut le corps. Le Cantique des Cantiques, écrit Jean-Louis Chrétien, est une Bible dans la Bible, car il est la faille en elle, la déchirure de cette blessure d'amour qu'il nomme. Et c'est en cela qu'on retrouve effectivement ce double mouvement d'édification et de sédition. Il raconte une histoire qui est toute l'histoire chrétienne, mais il la raconte dans le langage de l'amour qui ne se laisse circonscrire par rien, ni par une théologie politique, même si Luther tentera de faire de cette pensée du corps collectif une doctrine, ni par une inspiration allégorique, car elle ne peut fonctionner comme parabole que si elle ne le voile pas tout à fait du sens qui la dépasse. C'est ce qu'écrivait Franz Rosenzweig dans l'Étoile de la Rédemption. Il ne suffit pas que le rapport de Dieu à l'homme soit présenté à travers la parabole de l'amant et de l'aimé. La parole de Dieu doit contenir immédiatement le rapport de l'amant à l'aimé. Il faut qu'il y ait le signifiant sans la moindre allusion au signifié. Entendez que ces saints sont aussi des saints. Et l'ouverture des lèvres, le plus grand et le plus beau des risques. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, peut-être pour calmer l'inquiétude, l'angoisse de Georges Duby face à cette femme de marbre qu'il imaginait figée dans l'amour de Dieu, les yeux cloués au ciel, pour tout dire, je n'y crois guère. C'est étrange quand on y songe, d'ailleurs, le choix que j'ai fait aujourd'hui, et je m'arrête là, de vous laisser sans image. Espérant peut-être que d'autres, plus puissantes ou plus inconvenantes, intempestives, se lèveraient dans votre imagination, plus troublantes encore que la Thérèse du Bernin. On aurait pu, on aurait dû sans doute, évoquer la mise en image du Cantique des Cantiques dans l'enluminure, où elle se fait évidemment inévitablement explicite, surtout dans les manuscrits du Quattrocento italien. Mais allons un peu plus loin encore, et évoquons, pour terminer tout à fait, toujours sans la voir, mais il suffit de fermer les yeux pour la voir, la Vénus de Botticelli, peinte vers 1485 pour les Médicis. Une femme de marbre, elle aussi, impénétrable. Ciselée à la manière d'un bas-relief, Botticelli était considéré comme un peintre orfèvre, car son dessin était un stylet tranchant qui détachait les figures virilement, disait-on. Ce nu est si ciselé, en somme, que les historiens de l'art y ont vu un idéal transcendant de la nudité, aussi pétrifié qu'il était échevelé, et que le recours aux textes anciens, ceux du néoplatonisme, eh bien, parvenait à voiler métaphoriquement. Mais enfin, il faut savoir dénuder cette nudité. Comme le suggère Georges Didier Huberman, ouvrir Vénus, c'est-à-dire accueillir cette renaissance d'un corps qui revient d'un passé ancien où on l'affublait sans doute d'un nom de déesse. Mais il n'y a pas de déesse de l'amour, il y a seulement cette rémanence d'un désir de beauté qui ne sait dire qu'un mot, encore. Et d'accord, si vous voulez, si vous en voulez encore, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.